C'est une femme de foi, je crois qu'on peut le dire. Et elle a vécu parmi les plus pauvres des plus pauvres. Et elle a donné sa vie pour eux. Alors, hop, on va lire d'abord le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête et disent: Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui coule, qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. À la lecture de ce psaume, on pense bien sûr immédiatement à Jésus, à la crucifixion et à ce moment terrible où il est à la croix et il crie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus connaissait parfaitement les Écritures et il les a citées jusqu'à la fin. Tout au long de sa vie, il s'est appuyé sur les Écritures. Quand il a fait face au diable dans le désert, quand il a repris les pharisiens, quand il explique des choses, la loi, le sabbat, quand il annonce qu'il est bien le Messie, et bien sûr, quand il est confronté à la mort. Toute sa vie, il l'a fondée sur les Écritures. Petite parenthèse, ce matin, j'aimerais suggérer de connaître par cœur certains passages, certains versets, certains textes de la Bible. Ô combien c'est important. Pour ceux qui sont jeunes dans la foi, quand vous vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans la foi ? Un petit conseil ce matin, apprends des versets par cœur. Apprends par cœur. Ouvre ta Bible et puis apprends. Tu en auras besoin toute ta vie. Toute ta vie. Quand tu seras dans la joie et quand tu seras dans l'épreuve. Pour ceux qui sont plus anciens, j'aimerais nous mettre au défi. Combien de versets connaissons-nous ? Avons-nous appris un chapitre en entier ? Deux ou trois ? Et pourtant, combien de grands hommes de Dieu l'ont fait à des moments de l'histoire de l'Église ? Chez nous, ici, dans la Réforme, au moment de la Réforme, les pasteurs apprenaient par cœur un évangile en entier. Bon, il vaut mieux prendre, c'est quoi le plus court ? Luc, Marc ? Marc, il vaut mieux prendre Marc. Je plaisante un peu, mais ô combien c'est important que l'Écriture soit présente dans nos cœurs, mais vraiment présente, et pas à côté, sur notre table de chevet. Jésus a répété ce verset de l'Ancien Testament, on le trouve dans Deutéronome 8, il est dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi ? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Non, je n'ai pas beaucoup de amen ce matin. Et oui, pourtant ça fait partie de notre vie chrétienne. Ça fait partie de ce que Dieu nous appelle à vivre, se nourrir de la parole de l'Éternel. Nourrir et prendre soin de son corps est important. Petite parenthèse, on n'est pas bouddhiste. On ne dit pas que le corps, c'est nul et ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit et que nous devons en prendre soin. Mais nourrir l'homme spirituel, ô combien, c'est aussi important. La vie est faite de hauts et de bas, de grands moments de joie, les naissances, les adoptions, les mariages. Quand quelqu'un devient chrétien ou se fait baptiser, il y a plein de moments de joie. Quand Dieu nous guérit, waouh ! Il y a plein de moments de joie. Et puis, il y a des moments de douleur et d'incompréhension. Et c'est un moment comme cela que David est en train d'expérimenter. David crie, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Ne t'éloigne pas sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Tu ne réponds pas. Je n'ai point de repos. Je suis un ver. » Il était déprimé. Hein ? « Je suis le méprisé du peuple. » On parle du roi David, mais il a eu des moments terribles dans sa vie. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, et personne, quand personne ne vient à mon secours, je suis seul. Je sais que certains ne parlent jamais de la souffrance, et même parfois, on a tendance à l'exclure, à l'enlever de l'enseignement biblique, de l'enseignement de la Bible. Mais si je veux être honnête quand je lis l'ensemble des Écritures, je suis obligé de m'arrêter sur ce thème, sur cette thématique-là. Je ne peux pas éviter ce sujet. De grands hommes de foi ont vécu de forts moments d'angoisse, de douleur et d'incompréhension. David, on peut citer Job, bien sûr. On peut citer Joseph dans la prison, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il a été trahi, il a été jeté dans un puits, il a été enfermé en prison pendant des années. Qu'est-ce qu'il a pu vivre là-dedans ? Samson, on peut citer, qui a fini sans y voir grand-chose. La plupart des apôtres, oui, ils ont vécu des choses extraordinaires, mais ils ont aussi vécu des moments sûrement difficiles. La plupart sont morts, tués, à part l'apôtre Jean. Paul aussi a subi des tribulations et parfois s'est trouvé dans l'angoisse ou la dépression. Quoi de plus normal, Amy, quoi de plus humain quand on passe des années en prison? Et c'est dans le Nouveau Testament qu'on trouve aussi ceci, dans Hébreux 11. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Alors je vous rassure, on ne va pas rester là ce matin. Tout le monde va partir dépité. Non, ce n'est pas le but. C'est pas le but. Mais j'avais envie de parler de ça parce qu'on n'en parle pas très souvent. Et cette année, c'est une année un petit peu particulière, je crois, pour notre communauté. Et je pense que c'est bien d'en parler, de réaliser que oui, c'est présent dans la Bible et c'est présent dans de nombreux passages. Par contre, attention de ne pas faire de la souffrance un point central de notre vie et de notre foi, de ne pas se focaliser, bien sûr, là-dessus. Ce serait une grave erreur que de faire ça, parce que ça produirait la crainte dans nos cœurs. Et bien sûr, la Bible ne nous enseigne pas cela. Parce que dans le même chapitre, en hébreu, eh bien, on a, par la foi, ils vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice. Ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérirent de leur maladie. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Bon, les hommes, il faut qu'on se bouge. Il n'y a que les femmes. Personnellement, je nous encouragerais à nous centrer sur ces choses, nous rappeler les grandes bénédictions que Dieu opère dans nos vies. Elles sont si nombreuses et si merveilleuses. Il est important, je crois, de garder dans un coin de notre tête que parfois, nous pouvons traverser des temps d'incompréhension et que ce n'est pas surprenant de les traverser. La Bible le dit, je n'ai pas mis tous les versets, sinon on va y passer jusqu'à une heure. Mais on ne doit pas être surpris quand cela arrive, parce que beaucoup sont déjà passés par là, et dans la Bible, et dans la vie. Et ces temps ne s'opposent jamais au fait, et là j'aimerais que tout le monde écoute, ces temps difficiles ne s'opposent jamais, jamais au fait que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il désire abondamment nous bénir. Ça ne s'oppose jamais à cela. Oui, ça existe. Oui, la Bible ne le cache pas. Et c'est pour ça que j'aime lire la Bible, parce qu'elle ne cache rien. Elle ne met rien. Oh, il ne faut pas en parler. Non, on peut parler de tout. Mais quand on traverse ces choses-là, il faut se dire à son âme et se répéter que Dieu est bon, qu'il nous aime et qu'il veut nous bénir abondamment. Ça, c'est sa volonté. D'ailleurs, David finit le psaume dans la joie, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Oula. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Vous vous souvenez au début ? Pourquoi tu réponds pas ? Je suis seul. Tu ne m'entends pas, mais si. Il ne me cache point sa face, il écoute. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, feront la fête. Que votre cœur vive à toujours. Ma foi et ma pensée sont centrées sur la joie et les multitudes de bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé en parlant du fait de se rappeler les Écritures et puis bien sûr ce titre « Aux armes » ben, c'est tout simplement parce que la vie, c'est un combat avec des victoires, avec ce qui pourrait ressembler à des défaites. Et ce combat, il est, je crois, beaucoup plus spirituel que ce qu'on a tendance à le vivre, du moins chez nous, en Occident. Dans ce passage, est-ce que vous avez, je ne sais pas si ça vous a surpris, mais moi ça m'a surpris. Là, bien sûr, il est fait référence à Jésus, et Jésus est à la croix, et on aurait pu dire, ben, qu'est-ce qu'il voit ? Ben, il voit les gardes, il voit ceux qui lui ont fait du mal, il voit toutes les personnes qui sont tristes devant lui, il voit les foules qui crient à mort, bien non, ce n'est pas ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit, Jésus ? Il voit « De nombreux taureaux sont autour de moi. » Vous avez lu dans les évangiles qu'il y avait des taureaux ? Et en plus, des taureaux de Bazan. Ils ouvrent leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Qu'est-ce qu'il est en train de voir là, Jésus ? Il est en train de voir le monde spirituel. Il est en train de voir spirituellement, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je crois qu'au moment de la croix, Jésus a vu les cieux s'ouvrir et il a vu dans le monde spirituel. Et on sait que ce n'est pas la lance, que ce n'est pas l'étouffement qui a tué Jésus. C'est le poids du péché. C'est notre péché. C'est le poids du péché de l'humanité qui est tombé sur lui. Et c'est ça qu'il a emporté dans la mort. Ça n'est pas les choses physiques qui sont venues à bout de Jésus. C'est important de réaliser ça, que le monde spirituel est vraiment là, est vraiment présent, et que Jésus a vécu ça pendant ce temps-là où son corps souffrait. L'Ancien Testament est rempli de guerres, mais toutes les guerres n'étaient que l'ombre de ce qu'il se passait au niveau spirituel, je crois. Par moments, Dieu permettait à certaines de voir la bataille spirituelle. Pour ceux qui ont lu, on peut citer Élisée avec son serviteur. Le serviteur est paniqué et Élisée demande au Seigneur de lui ouvrir les yeux et là, il voit l'armée céleste qui est présente avec l'armée terrestre d'Israël. Moïse, avec les bras levés, qui voyait spirituellement que s'il levait les bras, eh bien, la victoire était remportée. Et quand les bras baissaient, eh bien, c'était la défaite. Il y a un monde spirituel qui est vraiment présent et c'est important de le réaliser. Et mon propos de ce matin, c'est celui-là. Ouvrons nos yeux spirituels de plus en plus. On peut citer Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus a remporté la guerre finale. Ça, on en est sûr, la Bible le dit. Il a mis le diable sous ses pieds et a dépouillé l'ennemi. À la croix, il a dit, après avoir vu tout cela, il a dit, tout est accompli. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Au contraire, c'est pourquoi nous pouvons avancer confiants, parce que la victoire est remportée. Dans toutes les batailles de la vie, nous pouvons être pleinement confiants en notre Dieu, sachant que la puissance de Dieu nous est donnée pour écraser les reliquats de l'œuvre de l'ennemi. Le peuple de Dieu, durant toutes les générations, ne baisse pas les bras et continue de vivre et de répandre la bénédiction autour de lui, jour après jour, année après année et maintenant, siècle après siècle. Paul nous encourage encore. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Toutes les armes, Paul nous dit. N'en prenez pas qu'une. Prenez toutes les armes. C'est quoi? Est-ce que c'est un vrai bouclier et une épée et puis on va se balader comme ça dans les rues? Non. C'est quoi? Les Écritures. Je ne sais pas, la prophétie. La guérison. Quelqu'un est malade, prie pour lui. Prends ton arme. Quelqu'un a besoin de recevoir une parole, donne-lui. Prophétise. Tous les dons de Dieu, tous les dons que Dieu a fait aux hommes et à son Église, c'est ça. C'est ça nos armes. Et quand on lit un peu plus loin dans Éphésiens, il résume le tout par la prière. Ton arme la plus puissante, elle aboutit à prie et combat. Je crois qu'en Occident, on a besoin de retrouver, parce que je crois qu'à une époque ça existait, mais un esprit de combativité. Les dames, vous avez eu un super week-end. Ce matin, c'est un peu plus de testostérone que j'ai envie de réveiller en nous. On a besoin de se réveiller et d'être plus combatif. Même si la victoire, et je le répète, finale est remportée, des relents de bataille subsistent. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle demande à l'Église? Elle nous demande d'écraser la tête du serpent. Ne soyons pas timides, mais combatifs, forts et courageux. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne nous fera pas de cadeau. L'ennemi ne nous fera pas de cadeau. Quand il est venu voir Jésus, il n'a pas été très sympa. Et il fait pareil avec nous. On peut citer ce David qui dit « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres. » Voilà ce que veut faire l'ennemi. Il vient comme un taureau, comme on a lu, avec la gueule d'un lion pour piétiner et déchirer, comme les cornes d'un buffle ou le glaive, pour transpercer, ou comme les chiens pour mordre. Ce matin, en priant, j'ai eu une vision, j'ai reçu quelque chose que je vais vous partager. J'ai vu que la terre était remplie, mais pas en totalité, comme par une armée noire. Et son but était d'avancer, bien sûr, et de recouvrir la terre. Et j'avais ce verset, cette parole qui retentissait dans mon cœur, où il est dit que la connaissance de la gloire de Dieu couvrira la terre comme les eaux, la mer. Et ce fort sentiment que ces ténèbres, elles voulaient faire de même. Parce que Dieu a dit ça, alors l'ennemi veut s'emparer de ça aussi. Mais à chaque fois qu'un enfant de Dieu priait et demandait la bénédiction du ciel, alors je voyais une pluie de lumière qui tombait et qui chassait momentanément les ténèbres à l'endroit où la prière était faite. Et je crois que Dieu veut nous encourager par là à ne pas être passifs dans nos vies. Ne soyons pas passifs, soyons actifs, combatifs. Ne subissons pas ce qui se passe comme si nous étions déjà morts, parce que ça n'est pas le cas. Nous sommes vivants et pleins de vie, parce que la plénitude de la vie de Dieu habite en nous. Ça, c'était le verset. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme ? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ? Juste cette interrogation à la fin. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres ? L'œuvre de l'ennemi est toujours présente sur la terre. Et est-ce que nous faisons connaître les prodiges de Dieu et la justice de Dieu ? Alors soyons comme David, qui en voyant Goliath se dresser dans sa vie, eh bien dit, « Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Amen. J'aimerais vous demander de vous lever et puis on va prier. Seigneur. Saint-Esprit, Seigneur, viens. Lauriane, tu veux venir au piano, s'il te plaît ? Seigneur, viens. Seigneur, fais-nous ressentir ta présence maintenant, d'une manière particulière. Seigneur, ma prière est comme celle d'Élisée. Ouvre les yeux de ton serviteur, afin que nous voyions. Que nous voyons les taureaux de Bazan, les lions ou les chiens. Et qu'au nom de l'Éternel des armées, nous les chassions de là où nous sommes. Merci Seigneur parce que tu poses ta main sur la tête de chacun maintenant. Et voici ce que tu dis. Voici, je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Seigneur, je scelle cette parole dans les cœurs par le Saint-Esprit maintenant. Voici, je vous donne la puissance pour marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Joya Santa Barama Mana Kiria Sunda Shanta Kiria Surya Sunda Barama Mana Kiria Sunda. Surya Mana Kiria Sunda. Seigneur, je veux chasser esprit de tristesse, d'angoisse, de crainte, parce que tu es avec nous. Toria Shanta Kiria Sunta Baramana Kiria Sun. Shuria Santa Baramana Kiria Sunta Baramana Kiria Sun. Je proclame que ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus. Surya Santa Baramana Kiria. Merci Jésus parce que tu as dit je vois Satan tomber du ciel. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts reviennent à la vie. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Shoya Santa Kiria Sota Baraba. Kiria Sota Shanta Baraba. Shoya Sota Kiria Sota. Allez, vaillant héros, que votre bouche ne se taise pas. Annoncez la bonne nouvelle autour de vous. Priez pour ceux qui sont malades. Prophétisez pour annoncer la parole de Dieu. Bénissez tant que vous pouvez, parce que Dieu est avec vous. Amen.